Pour la libération des femmes, la place des mecs et à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont cravates, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Et bonsoir, nous sommes le 12 juin 2023, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est en direct pour le Canus Info, tous les deuxièmes lundis du mois, c'est le Canu Info en mixité choisie sans mexis. Et on commence tout de suite avec les titres.
Et on va commencer du côté de l'international et en ce mois des fiertés, on avait envie de vous donner quelques bonnes nouvelles du côté de la communauté LGBTI.
Au national, on parlera d'écologie avant de parler de la criminalisation de l'autodéfense numérique.
Et au local, on parlera logement, on parlera des femmes sans logement et puis plus généralement de l'ouverture des expulsions à Lyon.
Et on aura deux dossiers, deux invités également en dossier. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
En dossier, on aura une interview sur la santé mentale des LGBTQI+ et le mois des fiertés et une interview sur les AESH qui sont en grève demain.
Mais on commence tout de suite par notre citation de la semaine. On n'avait pas trop envie de vous parler de Silvio Berlusconi qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui. Mais on a trouvé une petite citation de Jean-Pierre Bernès qui était le bras droit de Bernard Tapie et qui nous dit « Bernard Tapie avait beaucoup d'admiration pour Silvio Berlusconi ». Alors on ne sait pas si ça en dit long sur Bernard Tapie ou sur Silvio Berlusconi ou les deux. Mais en tout cas, Berlusconi, lui, ne nous manquera pas.
On enchaîne tout de suite avec l'international.
Et oui, après une énorme marche des fiertés à Lyon samedi dernier, où il y a eu plus de 15 000 personnes, c'était la fête partout dans les rues de Lyon. On avait envie d'aller plus du côté de l'international et aussi de donner des bonnes nouvelles, parce que tout à l'heure, on redira qu'en fait, les inégalités, et notamment les inégalités de santé liées à la communauté LGBTQI+, sont toujours là. Mais quand même, il y a des petits droits qui avancent, notamment du côté du Mexique, où le gouvernement mexicain a délivré le premier passeport à une personne non-binaire lors de la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a remis le document à Jesús Ociel Baena Saucedo, qui est également le premier magistrat non-binaire du pays. La cérémonie a eu lieu à Naucalpan. Toute personne qui s'identifie comme non-binaire peut désormais demander un passeport dans l'un des 32 États du Mexique. Si on va du côté de Taïwan, à Taïwan, les couples de même sexe ont désormais la possibilité d'adopter des enfants ensemble. L'amendement à la loi sur le mariage homosexuel a été adopté par le Parlement en mai. Auparavant, lorsqu'un couple queer souhaitait adopter un enfant, seule une personne pouvait s'inscrire comme parent légal. En décembre 2021, une décision a autorisé un homme de la ville de Kaohsiung à adopter l'enfant de son mari, mais les autres couples n'ont pas été autorisés à adopter. Le dernier amendement accorde des droits égaux à toutes les familles, quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle. On peut rappeler qu'en 2019, Taïwan est devenu le premier pays d'Asie à légaliser le mariage homosexuel. C'est désormais le seul pays d'Asie du Sud-Est à autoriser l'adoption pour les couples de même sexe. Si on va du côté de Chypre, le Parlement chypriote a adopté un amendement au code pénal qui définit les thérapies de conversion comme une infraction pénale. Cela signifie que toute pratique, technique ou service visant à convertir, supprimer ou oblitérer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Si un mineur est soumis à ces pratiques, la peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 euros. Toutefois, le projet de loi autorise des prêtres à continuer d'accueillir les confessions des personnes LGBTQIA+ et à les conseiller. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est pas pour dire que tout va bien partout, mais c'est pour dire que quand même, des fois, il y a des choses qui avancent et que ça fait plaisir. On peut aussi parler de l'Argentine, par exemple, où la pilule du lendemain est désormais disponible sans ordonnance, grâce à une nouvelle loi signée par la ministre de la Santé, Carla Bisotti. Alors voilà, on avait envie de vous donner quelques bonnes nouvelles pour ne pas citer que les mauvaises.
C'est assez rare pour le souligner. On passe tout de suite à l'actualité nationale. On va vous parler d'écologie, puisque la nécessaire mobilisation face à la crise climatique se poursuit malgré la répression.
Et oui, et là, c'est plutôt les mauvaises nouvelles du coup de l'émission. En ce début d'été, la crise climatique se rappelle à nous, au cas où on l'aurait oublié. L'Asie du Sud-Est connaît des records de chaleur, autour de 45 degrés en Thaïlande. En Sibérie, il fait aussi autour de 40 degrés, alors que la fonte du permafrost pourrait libérer encore davantage de gaz à effet de serre et donner un coup d'accélération au réchauffement climatique. Au Canada aussi, les écologistes doivent faire face non seulement aux incendies qui ont ravagé près de 4,5 millions d'hectares depuis le début de l'année de forêt, avec actuellement 400 feux actifs, dont 203 hors de contrôle, mais ils doivent aussi faire face aux trolls climato-sceptiques, libéraux ou d'extrême droite. Pas moins que l'ancien ministre des Affaires étrangères Maxime Bernier, suivi par 250 000 personnes sur Twitter, a ainsi publié sur son compte « Je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique. » Et oui, les terroristes verts. Alors que l'urgence des mesures écologiques fortes au niveau national, international et local s'impose, les autorités françaises, elles aussi, s'acharnent contre les éco-terroristes à contre-courant de l'histoire et continuent à réprimer les militants et militantes écologistes après avoir annoncé leur volonté de dissoudre le collectif Les Soulèvements de la Terre. Lundi 5 juin dernier, d'importants moyens policiers avec cagoules et treillis militaires ont été déployés pour interpeller une quinzaine d'activistes dans une dizaine de communes en France. Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue et sont visées dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs et dégradation en bande organisée. À noter que si le délit d'association de malfaiteurs était retenu, ça serait un précédent très grave pour les mobilisations sociales ou écologistes. Ces personnes sont donc soupçonnées d'avoir participé à une action contre la cimenterie de la Malle, exploitée par le groupe Lafarge dans les Bouches-du-Rhône, le 10 décembre 2022. 200 personnes avaient effectivement tagué l'usine, éventré des sacs de ciment, endommagé l'incinérateur, sectionné des câbles et détruit des engins de chantier. Bref, quelques dégâts matériels mineurs face à la machine industrielle écocidaire. Un porte-parole des Soulèvements de la Terre a réaffirmé le soutien du mouvement aux interpellés et rappelle que la production de ciment, dont le béton est un ingrédient, est responsable de 8% des émissions mondiales de CO2 et qu'il est urgent de remettre en cause la production de béton. Au lieu de cela, le gouvernement soutient Lafarge, décide de ses arrestations et essaye de faire rentrer des actions écologistes dans le terrorisme. Malgré ces arrestations, la mobilisation qui était prévue ce dimanche 11 juin en Loire-Atlantique contre l'extraction de sable, organisée par les Soulèvements de la Terre, a bien eu lieu. Dans ce département, le collectif citoyen La Tête dans le Sable se mobilise depuis 3 ans contre l'extraction de toujours plus de sable par les entreprises du BTP, GSM et Lafarge, encore elles, dans la commune de Saint-Colomban. Elle s'oppose aussi au maraîchage industriel pratiqué dans la région, qui est un des débouchés des carrières de sable. Les cultures intensives de mâche et de muguet demandent 500 000 tonnes de sable par an. Dimanche, ces 1500 personnes qui se sont donc réunies ont arraché quelques cultures intensives de mâche et de muguet pour y planter des graines de sarrasin et ont recouvert la porte d'entrée des locaux de Nantes Métropole avec un mélange de paille et de terre comme action symbolique. Et ça continue encore cette semaine les mobilisations écologistes avec un nouveau week-end de protestation internationale pour la défense des montagnes et de l'eau organisé en Savoie les 17 et 18 juin par les Soulèvements de la Terre, le mouvement italien Notav, Sudrail, la Confédération Paysanne et Vivre et Agir en Maurienne. Le mouvement italien, il s'agit de s'opposer à la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, le TAV, qui passera sous les Alpes pour relier Lyon et Turin en 2 heures, Paris et Milan en 4h30. Les collectifs dénoncent en particulier le creusement de 11 tunnels, dont le plus grand d'Europe, de 57 km, chiffré à 8 milliards d'euros, par l'entreprise Tunnel Euralpin Lyon-Turin. La ligne fera gagner aux voyageurs et aux marchandises seulement 1h25 entre Paris et Milan, tout en détruisant l'écosystème et de nombreuses sources d'eau. Les travaux préparatoires du tunnel principal ont déjà débuté côté français dans la vallée de la Maurienne et côté italien en Val de Suse, et on observe déjà des dizaines de sources drainées par les machines qui se tarissent ou ont perdu du débit, le percement de plusieurs nappes phréatiques et des captages d'eau de communes situées en amont du chantier qui sont directement affectées. Le chantier est aussi décrié parce qu'il mange sur des terres agricoles. 800 hectares de terres agricoles et une quarantaine d'exploitations savoyardes sont menacées par le projet. Et selon la Confédération Paysanne, jusqu'à 1500 hectares de terres agricoles pourraient disparaître pour cette ligne ferroviaire. Si les partisans du TAV expliquent que la ligne Lyon-Turin permettra le report de circulation de camions sur le train, La ligne et les tunnels existants entre Lyon et Turin permettent déjà le report modal d'au moins 800 000 camions, ce qui rend ce projet inutile. Du côté italien, le creusement du tunnel devrait débuter ce mois-ci. C'est ce qui motive donc, enfin ce qui a initié la date de cette mobilisation donc de ce week-end. Les soulèvements de la terre appellent, avant le début du forage du tunnel de base, à mettre un coup d'arrêt à ce projet, avant que les travaux et les dégâts engendrés ne soient irrémédiables.
Toujours au national, la criminalisation de l'autodéfense numérique avance.
Oui, alors on en avait parlé la semaine dernière, hein, les moyens déployés dans la surveillance et la répression des militants écologistes nous montrent la détermination de l'État à faire taire toute contestation. Parmi ces moyens, les outils numériques sont désormais au premier rang de la stratégie de l'État contre ses opposants. Mercredi dernier, les sénateurs ont étudié l'article 3 du projet de loi de Dupond-Moretti qui vise à modifier le cadre des procédures pénales, notamment en autorisant le déclenchement à distance des caméras ou micros des téléphones dans certaines enquêtes. On l'avait vu la semaine dernière, hein, la police pour le moment elle utilise des mouchards ou elle installe des caméras et des micros un peu partout, un peu n'importe où surtout. Voilà, on l'avait vu avec les militants des soulèvements de la terre où de nombreuses caméras ont été retrouvées sur des lieux de réunion. Voilà. Alors ça c'était possible jusqu'à présent, maintenant ce qui est possible ça va être de déclencher nos propres outils numériques, nos ordinateurs, nos téléphones pour nous surveiller. Outre ce volet numérique donc de cet article 3 du projet de loi de Dupond-Moretti, il va permettre aussi d'étendre le cadre des perquisitions de nuit. On a vu que ça faisait aussi partie de l'arsenal déployé par le gouvernement pour essayer de réprimer la contestation sociale. Bref, de bien belles perspectives pour nous réprimer un peu plus. Et on voulait aussi vous parler de cette question, puisque le 23 juin à Lyon aura lieu une soirée de soutien aux inculpés du 8 décembre. On vous a déjà parlé de cette affaire ici. Et la Quadrature du Net a sorti un article très intéressant sur l'usage des outils d'autodéfense numérique contre les inculpés eux-mêmes. Alors très rapidement, je reviens sur l'affaire. Si vous voulez en savoir plus, aller un petit peu plus loin, vous pouvez réécouter notre interview du 4 avril 2022 où on avait interviewé donc, le comité de soutien des inculpés ou bien venir évidemment à la soirée du 23 juin. Mais très rapidement, c'est une affaire qui date de décembre 2020 dans laquelle 7 personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes sur des bases absolument fallacieuses. Depuis Tarnac, hein, c'est la première fois que de nouveau est utilisé le cadre de l'antiterrorisme pour essayer de réprimer ce qu'ils appellent l'ultra-gauche. Donc de l'aveu même du parquet, donc cette affaire elle est vraiment montée de toutes pièces, hein, il y a un certain nombre des inculpés qui ne se connaissent même pas. Et le parquet lui-même avoue que l'enquête a pour le moment pas du tout réussi à identifier, ne serait-ce que le début du commencement d'un quelconque projet terroriste. Mais bon, peu importe, ça les a pas empêchés de laisser pourrir des camarades à l'isolement durant des mois. L'État a d'ailleurs été condamné pour cette mise à l'isolement. Le procès des camarades est prévu pour l'automne. Dans cette affaire, donc, un élément extrêmement inquiétant, c'est justement la criminalisation, je vais y arriver, des pratiques numériques des inculpés. L'article de la Quadrature du Net révèle deux phrases qui semblent quand même très inquiétantes dans le dossier. Je cite « Tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées, système d'exploitation Tails, protocole Tor, permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet et le Wi-Fi public. » Donc ça, c'est la DGSI qui note ça. Le juge d'instruction, quant à lui, explique « L'ensemble des membres de ce groupe se montraient particulièrement méfiants, ne communiquaient entre eux que par des applications cryptées, en particulier Signal, et procédaient au cryptage de leur support informatique. » Ces phrases, elles sont répétées tout au long du dossier. C'est autant d'éléments qui sont utilisés comme des preuves de l'intention terroriste des inculpés. Les inculpés, ils vont être interrogés, et leurs proches aussi, hein, parce qu'il va y avoir énormément d'interrogatoires, ils vont être interrogés inlassablement sur ces pratiques numériques. Plus de 150 questions du dossier portent uniquement là-dessus. On reproche également aux personnes interrogées d'avoir installé Linux à l'aide de systèmes de chiffrement ou encore simplement l'utilisation de navigateurs protégeant les données personnelles ou même ne serait-ce que de bloqueurs de pub. L'usage donc de tous ces moyens de protéger simplement sa vie privée ou même la participation à des formations pour comprendre les enjeux de la sécurité informatique sont autant de preuves de culpabilité pour le parquet national antiterroriste. Du délire. Le parquet demande même aux inculpés s'ils sont contre les GAFAM. Et hop, une ligne de plus dans le dossier. Êtes-vous anti-GAFA ? Que pensez-vous des GAFA ? Ou encore, éprouvez-vous une certaine réserve vis-à-vis des technologies de communication ? Donc, visiblement, émettre une réserve vis-à-vis des technologies de communication qui utilisent nos données personnelles pour nous vendre tout et n'importe quoi, c'est une preuve de volonté terroriste de s'attaquer à l'État. Alors, ces questions, elles pourraient être risibles si elles ne constituaient pas le fondement pour construire un dossier antiterroriste complètement ubuesque, sans aucune preuve. L'État criminalise nos luttes, nos modes de vie et même nos façons de communiquer. Ils voudraient s'immiscer jusque dans nos pensées et nos intentions, et ils sont capables, pour se faire, de briser des vies pour essayer de détruire notre juste révolte, parce que je rappelle qu'il y a quand même des camarades qui ont passé des mois et des mois en prison, voire à l'isolement total pour ce qui est de Libreflow. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il paraît évident de développer nos propres outils d'autodéfense, numériques, mais aussi de toutes sortes. Partout, on essaye de nous enlever ces libertés, et surtout, on doit construire la solidarité avec celles et ceux qui sont victimes de cette répression absolument insupportable. Donc, on vous donne rendez-vous, évidemment, le 23 juin, à partir de 19h, à l'Amicale du Futur. C'est 31 rue Sébastien Griff, si je ne m'abuse.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale. Ce sera Sauveur du monde des Vulves Assassines. Une petite dédicace à certains et certaines écologistes, notamment au niveau local, dont on ne partage pas tous les combats.
Et dont on reparlera juste après.
Les pauvres prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature. Les pauvres sont feignants, fument trop, font leur course à Auchan. Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis. Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver. Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille. Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé chimpanzé. Tu portes des slips en peau de banane, entièrement fabriquées en France. Oui t'as acheté des chaussures en plastique, mais pour chaque paire acheter un petit arbre est planté.
J'aimerais que tu meurs dans ton lombricomposteur.
Tu en fais tout un foin, tu préfères boire dans des nouilles. T'es responsable, éco-transition chez Total. Parfois tu rentres, tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au Bahamas, tu te laves le cul. Un jour sur deux, tu tires la chasse une fois sur trois. Ta femme de ménage essuie les plâtres. Ton rêve c'est que les gens respirent l'air pur, qu'ils se reconnectent à la nature. Que tous les gens puissent être heureux, mais ils sont un peu trop nombreux. Ta voiture électrique, je la plastique, je dénature ta figure. Je te fume, je te cours ça au champ. C'est vrai que je suis agressive, je fais du bruit, mes gosses sont mal polis. Je te fous sous la douche et je te coupe l'eau chaude.
Il est 19h20, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, c'est le Canus Info du lundi 12 juin. Et oui, Bruno Bernard, il faudrait que tu laisses pousser les fleurs, mais surtout que tu arrêtes d'expulser les pauvres.
Et oui, bah on commence tout de suite par parler d'une initiative récente. Lundi dernier, une quarantaine de femmes a décidé de se réunir à la Bourse du Travail pour parler galère de logement et chercher des solutions concrètes à la question spécifique des femmes sans logement. Alors ces femmes, elles sont souvent invisibilisées alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses à la rue. Elles sont invisibilisées d'une part, comme toutes les femmes dans l'espace public évidemment, mais aussi car elles se cachent bien plus puisque la rue les expose à plus de risques de toutes sortes. Bien sûr des risques de violence et de traite, mais elles sont aussi confrontées à des problèmes d'accès à l'hygiène et à la santé. Quand elles sont mères, elles doivent aussi affronter la répression des services sociaux. Bref, tout ça, ça les pousse à exposer moins facilement leur situation. Elles se retrouvent donc de fait bien plus isolées. Elles sont parfois hébergées chez des tiers, bien souvent c'est contre des services, elles subissent des violences. Leurs accès aux espaces de sociabilité est plus restreint et de ce fait, elles sont bien moins identifiées par les réseaux de solidarité. À Lyon, les dispositifs d'hébergement ils sont largement insuffisants, ils sont souvent inadaptés à la vie familiale. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ces dispositifs rendent de toute façon les femmes plus vulnérables. En 2016, dans l'enquête Halte Femmes menée par le SAMU Social, on apprend que 90% des femmes à la rue déclarent avoir subi des violences et que 40% des femmes victimes de violences conjugales qui ont fait une demande d'hébergement sont sans solution. Cette absence de solution, elle concerne 30% des femmes avec enfants et la moitié des femmes sans enfants. À Lyon plus spécifiquement, Jamais Sans Toi a recensé 120 familles et donc 305 enfants à la rue. Parmi ces familles, le collectif a dénombré 38 femmes seules, 33 enfants de moins de 3 ans, 7 personnes handicapées, 11 gravement malades, 2 femmes et 2 femmes enceintes. Alors ces chiffres, ils sont évidemment malheureusement bien en deçà de la réalité. Et donc face à cette situation, un certain nombre de femmes ont décidé de se réunir et de s'organiser pour lutter pour une vie digne et aussi pour se rendre visible. Ce soir encore, donc, a lieu une réunion à la Bourse du Travail. Elles sont en squat, dans des campements où elles logent dans les écoles et elles doivent faire face donc à l'État qui les réprime, les remet à la rue sans jamais proposer de solution. Fin juin d'ailleurs, la fermeture des écoles va encore remettre des dizaines d'enfants et de femmes à la rue et la métropole a annoncé encore une fois la remise à la rue de 80 familles et il y a des campements qui sont menacés d'expulsion. On parlera aussi plus tard du traitement fait au squat de Lyon. Quoi. Ces problématiques spécifiques des femmes, elles s'inscrivent vraiment dans un contexte lyonnais d'expulsion à tout va qui ne fait que s'aggraver. Et je te laisse peut-être en parler.
Oui, voilà. Bah donc, pour rester dans l'actualité juste d'aujourd'hui, ce matin a eu lieu l'expulsion violente du squat La Maison de Sans Souci, qui était occupée par une cinquantaine de personnes depuis octobre 2020. Les habitants et habitantes n'avaient pas été prévenus de la date de l'expulsion et aucun service social n'était présent, que ce soit de la métropole ou de la ville. 4 personnes ont été arrêtées puis relâchées et certains sont partis avec une OQTF. Alors la Maison de Sans Souci, c'était d'abord un bâtiment à l'abandon depuis 10 ans, appartenant à la mairie du 8e, pardon, et pour lequel il n'y avait aucun projet. À l'époque de l'installation des habitants, les élus semblaient même ne pas connaître l'existence du bâtiment. Parmi les habitants, il y avait des enfants, des femmes enceintes. Les habitants géraient eux-mêmes la cohabitation et l'entretien du bâtiment. Ils et elles avaient fait des travaux, ils avaient installé un poulailler. Ils et elles étaient en lien avec les habitants du quartier, puisque leur jardin hébergeait un compost accessible par tous. Il s'y déroulait des ateliers, entre autres de réparation de vélos avec une association. Et les habitants organisaient aussi régulièrement des après-midi portes ouvertes pour leurs voisins. Les habitants et habitantes étaient beaucoup à être demandeurs d'asile et étaient donc censés être hébergés par l'État. On sait malheureusement que l'État ne le fait que très peu. Bref, comme c'est généralement le cas avec les squats, la Maison de Sans Souci venait à pallier une défaillance des institutions qui laisse déjà environ 10 000 personnes sans logement dans Lyon et sa métropole. C'est sûrement pour ça qu'au sujet de ce bâtiment, Sandrine Runel, adjointe au maire, avait déclaré il n'y a pas si longtemps dans Le Progrès, le 10 mars 2021, que la mairie du 8e souhaitait dialoguer et que quoi qu'il arrive, reprendre ses mots, nous ne demanderons pas le concours des forces publiques.
Et on parle de la même Sandrine Runel qui fait la marchande de sommeil à la Guillotière.
En tout cas, il y a eu des articles là-dessus.
Intéressant.
Et voilà. Ben, la location de son bien personnel à des prix indécents.
En tout cas, ce qu'elle avait déclaré dans le progrès, ça semblait logique. Et pourtant, il y a deux semaines, une trentaine de policiers sont entrés de force dans le logement pour faire donc un recensement, se permettant de défoncer les portes et annonçant donc une expulsion dans peu de temps. Et donc, vendredi dernier, les habitants ont répondu en se déplaçant à la mairie du 8e et demandant une rencontre avec le maire pour discuter de solutions de logement, puisque, rappelez-le, la mairie avait déclaré privilégier le dialogue. Le maire a refusé de descendre et a fait appel à la police pour les faire partir. Une personne a même été gardée à vue après avoir été gazée, matraquée, alors que les témoins disent qu'il n'opposait aucune résistance. C'est donc refus de dialogue et utilisation des forces de l'ordre, tout le contraire de ce qu'annonçait l'adjointe au maire l'année dernière, il y a deux ans, pardon. Et donc pour finir, les habitants et habitantes ressortent sans solution d'hébergement et n'ont même pas pu récupérer l'entièreté de leurs affaires. Si vous voulez proposer une aide quelconque à ces habitants, anciens habitants, vous pouvez écrire à maison sans souci tout attaché @riseup.net. Mais malheureusement, c'est une histoire qui s'est répétée et qui va se répéter. Le 1er juin, c'est le squat Le Zola qui était vidé. Et au moins 7 autres squats sont expulsables depuis la fin de la trêve hivernale, concernant plusieurs centaines de personnes. Et leur mise à l'abri après expulsion est loin d'être assurée. Pour le Dur à cuire à Caluire, par exemple, 3 familles vont être temporairement logées à l'hôtel. Pour les autres, aucune proposition. La loi oblige à faire un diagnostic social pour chaque expulsion, en théorie pour organiser le relogement. Dans les faits, ce n'est devenu qu'une formalité sans suite ou presque. Les logements à l'hôtel, ce ne sont souvent qu'une courte transition vers le retour à la rue. Et on a vu juste avant que les femmes et les enfants, même s'ils sont certes un peu prioritaires, cela n'empêche pas d'en mettre ou d'en laisser beaucoup à la rue. D'autant plus que le logement n'étant pas proposé au père des enfants, en général, il arrive que les femmes le refusent pour ne pas être séparées de leur mari. C'est le cas d'une habitante, en fait ex-habitante de Sans Souci, qui est enceinte de jumeaux et a déjà un enfant de 2 ans. Elle ne veut pas être séparée de son mari qui s'occupe de leur enfant quand elle va à l'hôpital. Même les campements sont menacés d'expulsion, par exemple celui à côté de la gare Pardieu. Ah oui, alors juste avant l'expulsion de la maison de Sans Souci, il y a eu un début de campagne d'envoi de mails massivement à la mairie de Lyon, à la métropole et à la préfecture pour demander que la maison de Sans Souci ne soit pas expulsée. Finalement, donc on l'a dit, elle l'a été, mais si vous trouvez aussi ridicule d'expulser des gens de bâtiments vides pour les faire rejoindre les milliers de personnes déjà à la rue, qui elles-mêmes devraient déjà être logées, vous pouvez en informer les responsables et donc écrire à Olivier Berzane, maire du 8e, Grégory Doucet, maire de Lyon, Sandrine Runel, adjointe municipale à la solidarité, ou à Fabienne Bussiot, préfète de Lyon. On mettra les mails sur le blog, mais ils sont aussi trouvables facilement sur Internet.
Vous pouvez également leur envoyer des lombricomposteurs à leur domicile. Je pense qu'ils sauront quoi en faire.
Et tout ça, ça donne bien la rage. On va écouter KLM, Madame la Justice.
Madame la justice, je vous adresse selon verset. J'ai des choses à vous dire, je ne fête pas votre anniversaire. Vous êtes morte, à mes yeux et pour tant d'autres. Votre clé n'a plus de porte, sauf pour jeter des gens en tôle. 2018, sombre époque où l'injustice a pris votre rôle. Pourquoi ? Plus de 100 pays ou un PIB plus bas que la fortune du PDG d'Amazon. Expliquez-moi l'opération Triton, ou comment l'Europe cautionne que des milliers de migrants meurent de soif sur des bateaux. Pendant ce temps, d'autres dépensent des millions, et au pays des droits de l'homme, on chape, touche pas à mon poste plutôt que se poser des questions. Y'aurait pas un truc qui déconne pour accueillir la coupe du monde normale de but et les plus pauvres. Bientôt, l'amour du sport signera la mort des autres. Voilà le subtil paradoxe où le parasite est à son comble, où le plaisir n'est de l'atroce pendant qu'on nous prend pour des cons. Le boycott inutile, l'achat l'emporte sur la raison. C'est bave si les assiettes sont vides, y'a une télé à la maison. Quand certains font des caprices, les miens veulent juste voir l'horizon. Genoux à terre comme Capernic, j'attends le retour de la bonne saison. Mais qu'est-ce qui vous panique? Comptez-vous passer à l'action? Ici je communique, je n'écris pas d'actes d'accusation. J'aimerais comprendre ce qui vous pousse à cacher votre position. Nos vies vous touchent, ressentez-vous des émotions? Une peine de 30 ans ferme pour avoir fait une fausse couche. Vous trouvez ça juste? Un petit avec une main en moi, carré là, volé de la boue. Vous trouvez ça juste? Qu'on frappe, qu'on viole, qu'on tue des femmes et des enfants, qu'on manque de profs et d'aides-soignants, qu'on meurt d'une balle perdue. Mauvais endroit, mauvais moment. Vous trouvez ça juste? Qu'on fonde l'islam et des truands, qu'on fasse la course aux armements. Vous trouvez ça juste? Vous Vous êtes censé être la garante. Combien d'illettrés, d'entêtés, de demandeurs d'asile? Combien de SDF, de tentatives de suicide? Combien de prises d'otages, de cancers, de choléra? Combien de gens qui crèvent de faim? Combien? Je ne compte pas, madame. Si c'était vous dans ce cas-là, n'auriez-vous pas fait un scandale? Notre vie n'est-elle qu'une tour de capla qu'on casse pour le plaisir du vacarme? Vous mangez pas de ce pain-là, mais vous ancrez, c'est les écarts et vous étouffez les alarmes. Pas de crime, pas de coupable. Majazi et des bounas, police au-dessus des lois, un ministère pour Benalla, pas de procès pour le clan Benali. Mort suspect pour Adama, la tôle pour Aïta Mimi. Puis tous ceux qu'on citera pas, victimes d'un système, d'un pays ou de parents qui n'en sont pas, en nous laissant sur cette voie-là où piocher l'envie de vivre, l'envie de se battre, l'envie de dire pour trouver l'issue du cauchemar. Pas besoin que ça soit facile, tant que vous faites partie de moi. Là une cour dans les manifs, la répression agit au calme. Bienvenue au cœur de la bataille où vous sombrez dans l'oubli. L'espoir de vous revoir s'estompe à la manière d'un vieux souvenir, puisque notre défense repose sur le prix de l'avocat. Alors ok, pour le karma je l'accepterai sans faire de détails. Je veux bien que tout ait un sens, mais je peux pas faire votre travail. Je bataille déjà dans mes schémas, vous avez pas saisi votre chance. Je vous invite, venez chez moi, on refera pencher la balance. On renversera l'avalanche, on est tous un peu de Jedi. Justice à six vitesses, moi je ne cherche que mon essence. Alors à quand la renaissance? Vous devriez fermer vos failles. Qu'avez-vous fait de votre âme? Je ne vois que votre absence. Alors nous traitez pas de l'ASCA, nous on assume nos faux pas. On les regarde bien en face et on refuse qu'ils mènent la danse. Le jour où il sera trop tard, vous ne pourrez que vous en vouloir. Rentrez donc des Bahamas, vous avez pris trop de vacances. Madame la justice, j'espère que vous lirez cette lettre. Si vous avez le temps, j'y ai mis l'informer mon être. Et pour être vraiment honnête, je n'attends aucun changement. Je ne compte que sur moi-même, cordialement, KLM.
D'écouter KLM, Madame la Justice, et on enchaîne maintenant sur notre premier des deux dossiers. On a la chance d'avoir avec nous en studio une personne avec qui on va pouvoir discuter santé mentale et santé sexuelle des personnes LGBTQI+. Et ben bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux commencer par te présenter le cadre de ta recherche?
Oui, je m'appelle Céline, je suis en master de lutte contre les discriminations à Lyon. Et je fais mon mémoire de recherche, qui est aussi mon stage sur les inégalités d'accès à la santé mentale et à la santé sexuelle des personnes LGBTI sur le territoire. Je travaille principalement sur Villeurbanne, mais aussi sur la métropole. Et en fait, je vais à la rencontre des personnes concernées, des professionnels de terrain et des acteurs et des actrices de terrain pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne.
Et du coup, concrètement, quand on parle d'inégalité d'accès à la santé, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects sur les inégalités. Déjà, on a les inégalités et les discriminations. Au niveau des inégalités, on part du principe qu'il y a des prévalences à la santé mentale, que les personnes LGBT sont plus susceptibles de développer des problèmes tels que la dépression, les taux de suicidalité et les autres problèmes de santé mentale, qu'il y a aussi des facteurs de stress spécifiques, et enfin des disparités dans l'accès à la santé, sachant qu'il y a beaucoup de cas de non-recours.
Est-ce que du coup on observe aussi des préjugés, soit du côté des professionnels, soit même du côté des personnes concernées pour l'accès à la santé?
Oui, ça arrive beaucoup parce que les informations ne sont pas encore très inclusives encore aujourd'hui, et on manque d'informations sur les spécificités des personnes LGBT, notamment par exemple les femmes lesbiennes sur l'accès à la santé sexuelle, ou les personnes transgenres et les personnes intersexes. Les chiffres le montrent, qu'on a encore du mal à comprendre comment les personnes sont touchées au vu de leurs identités, et comment l'histoire des stigmatisations touche encore de façon contemporaine cet accès-là.
Toi, au cours de tes recherches, qu'est-ce que tu as pu mettre en avant en termes de chiffres ou en termes de réalité de terrain ?
Déjà, d'un point de vue national, on sait que statistiquement, on a le fait que les personnes LGBT sont sujettes à 4 fois plus de taux de suicide, sachant que ces taux, ils sont dans une proportion bien plus élevée quand on perce un petit peu les identités spécifiques. Aussi que 80% des personnes intersexes ont eu des conséquences négatives sur leur santé mentale suite à des actes médicaux. Donc ça, en fait, ce sont des études nationales, ce sont des statistiques. Et en fait, l'idée, c'est de parler de santé de territoire, de vraiment aller au niveau local, parce qu'on n'a vraiment aucune étude d'un point de vue local. Et c'est de mettre en avant les parcours des personnes Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on utilise les variables telles que la classe sociale, l'origine des personnes et les parcours de vie spécifiques qui leur sont propres, en fait, on est vraiment dans un caractère cumulatif des inégalités et des discriminations, voire même dans des cas de non-recours, des personnes qui vont carrément jusqu'à complètement s'isoler de la société et de la communauté.
Aujourd'hui, quels sont un peu les dispositifs qui existent quand même d'accès à la santé pour ces communautés ?
Alors sur le territoire, on a le planning familial de Villeurbanne pour un accompagnement et éducation à la sexualité. On a d'un point de vue médical, on a aussi le C2S, donc le centre de santé sexuelle au Griffon, qui revendique une approche de santé communautaire. Donc c'est pour les personnes queer, mais aussi pour les travailleuses de sexe et les personnes migrantes, enfin les femmes migrantes, il me semble. Puis après, d'un point de vue pédagogique, on a des associations qui font des contenus assez complets, comme l'association de lutte contre le sida via leschroniques.fr, qui vont proposer des contenus très pédagogiques et très modernes, notamment pour cibler les jeunes publics. On a aussi l'association Chrysalide, qui est pour les personnes trans, qui va proposer de nombreuses ressources sur l'accès aux droits et l'accès à la santé, et qui va beaucoup informer sur les parcours de transition. On a aussi Queer & Care à Villeurbanne, qui propose un accompagnement pour les personnes queer. Là, on est plus du côté psychique.
Toi, au cours de ta recherche, tu as l'impression que, du coup, que ce sont des assos ou des dispositifs qui sont connus et que les personnes les mobilisent, ou que les personnes elles restent encore très précarisées ?
Alors, ça dépend. Par rapport au planning familial, on est plutôt sur de l'ordre des personnes trans qui vont pas mal connaître le planning familial, mais c'est souvent des informations qui vont être un peu isolées. Toutes les associations, en fait, les personnes militantes vont bien les connaître, mais en fait, les militants ne représentent pas toute la communauté LGBT. Déjà, même parler de communauté LGBT, ça n'a pas trop de sens. C'est plutôt une population qui est très invisibilisée. Après, je suis obligée de parler de communauté parce que c'est quand même là où j'arrive à mieux les atteindre. Mais en fait, dans les cas où les personnes, par exemple, viennent de territoires géographiques assez ruraux, qui n'ont pas grandi en ville, il y a beaucoup d'ignorance sur les sujets. Et en fait, il suffit qu'ils n'aient pas eu le déclic ou pas les bonnes rencontres qui font qu'il y a telle association ou telle structure ressources qui font qu'elles vont rester, sans avoir ces ressources-là. Et ça, c'est quand même assez fréquent pour le coup.
J'ai l'impression que là, dans l'actualité récente, il y a eu le rapport SOS Homophobie qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi ?
J'en ai retiré, donc il est sorti il y a un mois, il me semble, et les LGBTQ phobies sont en hausse, notamment depuis une ère post-Covid, que la transphobie a littéralement explosé, et c'est pour ça que je pense qu'il est important aussi de casser un peu l'homogénéité des LGBT, qui est que voilà, historiquement on a beaucoup parlé des hommes, de la communauté, il faut continuer à en parler, mais là on se rend compte que vraiment le fait de percer les spécificités nous montre qu'on a vraiment des grosses disparités même à l'intérieur de la population. Ça montre aussi que depuis le Covid, il y a eu beaucoup de dispositifs qui se sont accélérés, notamment numériquement, sur l'accès aux informations et l'accès aux droits. Mais qu'en fait, cette mise en visibilité a créé cette espèce de paradoxe où la stigmatisation sociale, ça a aussi également explosé. Ce qui est un peu dur à gérer, du coup, d'un point de vue communicatif et d'un point de vue militant, je pense.
Oui, il y a une sorte de gros backlash qu'on retrouve aussi sur les idées féministes, et notamment une montée de la transphobie qui est assez hallucinante dans les médias mainstream, comme parfois même alternatifs. Hein. Mm-hmm. Et du coup, quel avantage, toi, tu vois, là, à penser la santé en termes de territoire, là, si on pense soit Lyon, Villeurbanne ?
Alors déjà, ça permet vraiment de mettre en visibilité, les territoires. Du fait que déjà on a, même d'un point de vue statistique, même si là elle commence à émerger, on en a quand même très peu, et de base en France on est quand même assez en retard sur ces sujets là et le fait de parler des territoires, pour moi c'est vraiment un enjeu de santé publique, scientifique, sociale et politique quand même, qui est que ça nous permet vraiment de comprendre les territoires pardon, et de comprendre comment ils fonctionnent. Là par exemple, dans le Rhône, on est vraiment dans un contexte de saturation de la psychiatrie publique. Faute de moyens financiers, humains, et faute d'organisation suffisante qui découle en fait de l'État directement. Et que en fait on a tous ces acteurs et ces actrices à toutes les échelles différentes qui vont œuvrer. Des fois en fait ces modalités d'action vont un peu rentrer en conflit parce qu'elles vont pas toutes être dans le sens de tout le monde. Et en fait, ça nous permet vraiment de comprendre la dynamique d'un territoire et de comprendre ce qui est fait, comment on évolue et comment en fait on peut mettre en place les nouveaux dispositifs qui vont permettre de pallier au manque que l'on constate.
Donc aujourd'hui, tu constates encore beaucoup de manques dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'information ?
Oui, je pense que oui, clairement c'est ce que je constate. Et selon les profils des individus, il y en a qui se retrouvent vraiment dans des situations d'isolement, déjà social, mais aussi d'un point de vue culturel et informationnel, si je puis dire. Et en fait, mais par contre, je vois aussi à quel point il y a beaucoup de démarches individuelles et beaucoup de démarches informelles. Et ce n'est pas que les institutions, ce n'est pas que les grandes associations qui en fait vont vraiment se saisir de tous ces pouvoirs pour en fait les retourner et pour essayer d'œuvrer et pallier à des manques.
Oui, mais on a l'impression que tu as cité quand même pas mal d'assos comme le Planning, ALS, Chrysalide. On peut aussi dire que sur des trucs de santé communautaire, Kabiria fait aussi beaucoup de brochures qui sont évidemment à destination des TDS, mais qui peuvent être réutilisées aussi pour d'autres communautés autour de la santé sexuelle et comme tu le dis aussi de la santé psychique. C'est deux types de santé qui sont souvent pensés ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots pourquoi ?
Oui, parce que au moment de l'émergence de la psychiatrie, en France, sous vraiment le côté un peu psychanalytique, en fait, elle est directement devenue très genrée. Et en fait, on a catégorisé les individus. Donc, ce qui s'est passé quand la psychiatrie a vraiment pris un pouvoir légitime, entre guillemets, du point de vue des sciences, en fait, on est passé du. Il y a des pratiques qu'on désigne comme anormales, comme les pratiques homosexuelles, et la psychiatrie a désigné des identités homosexuelles. Donc on est passé des pratiques anormales aux personnes anormales. Donc des pratiques déviantes aux personnes déviantes. Et avec les lois et avec toutes les pathologisations qui ont été enregistrées, dans notamment par exemple le DSM, qu'on a eu du mal à faire retirer, on voit encore qu'aujourd'hui, il y a toute cette empreinte historique entre la psychiatrie qui a... quand même toujours des questions sur le genre, toujours des questions de catégorisation sexuelle, de déviance sexuelle, d'amalgame, qui sont encore là. Donc c'est pour ça que pour moi, il est important de penser quand même la pensée sexuelle quand on parle de santé mentale, parce qu'on ne l'a pas encore dépassée.
Merci. Et peut-être pour finir, j'ai l'impression que là découle aussi des logiques de réduction des risques, de ce qu'on appelle la RDR. Et je sais qu'en off, on a discuté de Keep Smiling, et ça peut être peut-être la dernière association qu'on cite aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Donc Keep Smiling est à Villeurbanne. C'est une association de réduction des risques en milieu festif que je trouve au sein de mon travail très intéressante parce qu'elle, en fait, elle va vraiment toucher à des milieux qui ne sont pas pris en charge par les institutions. Donc tout ce qui est rave party, milieu techno, et qui va vraiment toucher à des publics, sachant que la consommation des drogues et les personnes dans ces profils-là ne sont rarement pris en compte par les institutions. Donc, ils viennent pallier à ce genre de manque.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et on poursuit tout de suite avec une deuxième interview.
Oui, on reçoit Camille qui est à USH et va nous parler de la mobilisation de demain. Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien oui, du coup, je suis Camille, je suis à ESH, donc je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. Je suis à ESH depuis 11 ans et je suis aussi syndiquée à Sud Éducation depuis quelques années. Quand j'ai poussé la porte du syndicat, c'est parce que j'avais des questions sur mes droits. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens sympas, donc je suis restée et puis j'ai décidé de m'y investir. Sud Éducation, j'en parle un petit peu parce que c'est un syndicat qui s'investit vraiment et qui s'attache vraiment à défendre les droits des personnes en contrat précaire dans l'éducation nationale et qui se bat vraiment au quotidien pour l'amélioration de ces droits et des conditions de travail. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent pousser la porte du syndicat, on a des permanences les mardis et les jeudis. Voilà. Pour parler un petit peu plus des AESH, on peut peut-être commencer par quelques chiffres. Les AESH, c'est 90% de femmes et c'est 99% de temps partiel imposé. Et 99% de temps partiel imposé, du coup, ça va avec des salaires qui sont, pour la très 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 grosse majorité des collègues, à environ 900 euros par mois. Donc AESH, c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. peut-être je vais parler au féminin parce que comme il y a 90% de
oui
femmes,
je pense qu'on t'autorise à faire ce raccourci.
Donc c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap dans les écoles et établissements scolaires. Les textes prévoient que l'accompagnement se fasse sur les temps d'apprentissage, sur les temps de vie sociale et sur les temps de vie scolaire, donc en dehors de la classe également. Concrètement, on est principalement là dans les classes auprès des élèves, mais on peut aussi intervenir dans la récré, à la cantine, en aide aux devoirs, tout ça en fonction des besoins des élèves. Il y a plusieurs modalités d'accompagnement, soit on peut accompagner un groupe dans le cadre d'un dispositif spécifique, c'est l'accompagnement collectif. On peut accompagner un ou une élève individuellement, c'est l'accompagnement individualisé. Et ce qu'on remarque vraiment ces dernières années, c'est que l'accompagnement individualisé, il disparaît petit à petit au profit de l'accompagnement mutualisé, qui fait de nous des super AESH capables d'accompagner plusieurs élèves en même temps. Et moi, l'image que j'ai, c'est que petit à petit, on passe d'un travail de une AESH avec une élève à une AESH qui est dans la classe entourée d'élèves. Et ça pose des vrais problèmes pratiques parce qu'on ne sait plus où les asseoir ces élèves autour de nous pour pouvoir les aider tous, toutes. Et bien sûr, en plus, chaque jeune a aussi besoin a des besoins différents, donc chaque accompagnement est différent.
Ok, du coup, ça, on a pu comprendre un peu quelles sont les missions des AESH et la question du salaire et du temps partiel imposé. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu la création de pôles dernièrement, les fameux PIAL. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur les conditions de travail des AESH où il y a des revendications ?
Oui. Alors, peut-être sur le temps de travail, juste redire que, en fait, le gouvernement ne nous fait que des contrats à temps partiel imposés parce qu'il considère que, finalement, notre travail se limite au temps d'accompagnement des jeunes. Et comme les jeunes, ils sont là, dans les écoles, en moyenne 26 heures par semaine, on nous fait des contrats à 26 heures. Mais du coup, c'est nier tout le travail qu'on fait en dehors du temps où on est avec les jeunes. Et... peut-être que le gouvernement considère toujours qu'être AESH, c'est, je ne sais pas, s'asseoir à côté de l'élève et prendre des notes, mais bon, c'est quand même une réalité très, très... C'est quand même une vision très, très éloignée de la réalité de terrain. Et finalement, refuser de reconnaître le travail qu'on fait en plus du temps d'accompagnement, refuser de le reconnaître, c'est refuser de le rémunérer, et c'est empêcher qu'il existe, puisque les collègues ne sont pas payés pour ce temps. Donc, elles prennent un deuxième boulot. Comme elles prennent un deuxième boulot, elles n'ont plus le temps de faire ce travail nécessaire de préparation, de concertation. Et donc, ce temps-là n'existe pas. C'est un cercle vicieux et qui a pour conséquence, finalement, la diminution de la qualité de l'accompagnement des élèves. Et puis, sur le salaire... Il y a eu une lutte menée par les syndicats et les collègues qui a permis en août 2021 la création d'une grille de salaire nationale avec des échelons pour les AESH, ce qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, avant, chaque académie faisait à sa sauce et parfois avec des conditions vraiment différentes suivant les académies. Donc c'est plutôt une avancée, sauf que le gouvernement a prévu une grille de salaire qui est tellement basse qu'en fait elle se fait dépasser par le SMIC sans arrêt. Donc là, normalement on est censé changer d'échelon tous les 3 ans, et là actuellement les 3 premiers échelons, donc ça correspond quand même à 9 ans d'ancienneté, ils sont au SMIC. Voilà. Et donc j'en arrive tranquillement aux PIAL. Les PIAL, c'est les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Ça sert à rien de retenir ce que ça veut dire, parce que ça va pas tarder à changer. La dernière fois que j'étais venue, les PIAL, ils allaient être mis en place. Donc depuis, malheureusement, on n'a pas réussi à empêcher leur mise en place. On remarque bien les dégâts qu'on avait un peu anticipés, c'est-à-dire une vraie dégradation des conditions de travail pour les collègues et des conditions d'accompagnement pour les élèves, puisqu'on a moins d'heures avec les élèves, plus d'élèves à gérer, des temps de déplacement qui sont augmentés, des organisations personnelles qui peuvent changer du jour au lendemain. Donc il y a une vraie dégradation des conditions de travail, et il y a aussi un autre effet pervers, c'est l'augmentation des petits chefs. C'est-à-dire que avant, les établissements pouvaient contacter directement le rectorat. Maintenant, on leur dit « Ah non, contactez le PIAL ». Mais au PIAL, il y a... il y a personne pour répondre régulièrement. C'est-à-dire qu'on nous renvoie vers quelqu'un. Quand il y a quelqu'un, c'est bien. Quand il y a quelqu'un de compétent, c'est mieux. Mais souvent, il n'y a personne. Ou il y a quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Donc, l'accompagnement des élèves, il n'est juste pas géré du tout. Et voilà, donc jusque-là, c'est pas nouveau, mais ça, je disais que ça sert à rien de retenir ce que ça veut dire PIAL, parce que à chaque ministre, sa nouvelle idée pour faire plus avec moins et surtout pour faire moins bien. Donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale nous a fait des annonces complètement sublunaires lors de la conférence nationale du handicap le 26 avril dernier. Au début, moi je suis quand même très très impliquée dans le mouvement contre la réforme des retraites, donc j'avais pas suivi, j'avoue, la conférence nationale du handicap. Et le lendemain, quand je suis arrivée au collège, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais t'as entendu ça ?» Mais non, mais c'est pas possible, mais c'est une blague. Et en fait, donc les PIAL, ça marche pas. Donc, ils veulent en faire autre chose, ça deviendrait des pôle d'appui à la scolarité. Alors du coup, bon, les jeux de mots et les pancartes et les slogans qu'on avait mis en place pour les PIAL, ils marchent plus, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et donc, on pourrait se dire, bah, peut-être le ministre, il a tenu compte de nos remontées, que les PIAL,
oui,
ça marche pas.
Il s'est dit que c'était vachement moins bien d'être affecté à des pôles au lieu d'être affecté à des établissements.
Et
c'est
ben
pas
non.
ça qu'il s'est dit
C'est pas ça qu'il s'est dit. Il s'est dit que finalement, il change de nom, il rajoute des missions, et du coup, il fait passer la pénurie de moyens pour de l'innovation. Donc maintenant, les PIAL géreront concrètement la répartition des AESH, mais aussi l'intervention et le déploiement des personnels médico-sociaux dans les établissements scolaires. C'est du gros n'importe quoi. Et les attaques ne s'arrêtent pas là, puisque le ministère annonce aussi la fin des métiers d'AESH et d'AED. Donc AED, c'est assistante d'éducation, autrefois appelé surveillant-surveillante ou
pion-pionne.
Voilà, exactement. C'est tellement péjoratif que j'ai du mal à le dire. Mais...
Oui, c'est pour ça que je me suis permise.
Merci. Et donc, du coup, il fusionne les deux métiers et il en fait, pouf, c'est magique, un statut hybride de, j'ai pas encore tout retenu, mais d'accompagnante à la réussite scolaire. Donc, bon, il faut quand même rappeler que le statut d'AESH, il a été créé en 2014. Donc, ça fait même pas 10 ans. C'est hyper récent que les circulaires et les décrets se sont succédés jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas du tout un truc obsolète qu'il faudrait dépoussiérer. Pas du tout. Et pour les AED, c'est pareil. En fait, la dernière circulaire qui permet la CDIsation des collègues, elle a été mise en place en septembre 2022. Et donc, le gouvernement décide que tout ça s'est dépassé. Et donc, il tire une nouvelle carte. Et donc, il a tiré l'accompagnante de réussite scolaire. C'est formidable.
Mais c'est quand même pas tout à fait pareil d'être AESH et assistante d'éducation, si ?
On a vraiment du mal à imaginer comment concrètement ça va pouvoir s'organiser. C'est-à-dire qu'il va falloir être... Enfin, c'est impossible. Il va falloir être à la fois auprès des élèves en situation de handicap pour faire l'accompagnement en classe, à la fois les AED, ils gèrent les élèves qui sont, par définition, pas dans les classes, puisqu'ils s'occupent de la vie scolaire. Donc, je ne vois pas comment, juste d'un point de vue de... À moins qu'on nous donne le don d'ubiquité, mais j'aurais des solutions meilleures pour l'utiliser que d'être à la fois des AESH.
Ok, donc contre les PIAL 2.0 et la fusion des métiers d'AESH et AED, il y a une mobilisation nationale demain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors il y a une mobilisation effectivement nationale qui est appelée par une intersyndicale. L'intersyndicale, elle appelle à la mobilisation des AESH. Nous, dans l'académie, on a décidé de se mobiliser avec nos collègues AED parce que ils et elles sont aussi concernés par les annonces qui ont été faites dans le cadre de la conférence nationale sur le handicap. Je suis perdue.
Oui, vous vous mobilisez du coup en commun avec les AED, puisqu'on a dit que même si c'est des métiers différents, il y a des conditions précaires similaires, et puis finalement cette fusion, bah, elle concerne les deux métiers. Donc le rassemblement de demain, c'est à midi devant le rectorat, mais d'ailleurs c'est pas la première mobilisation des AESH, hein, ça s'inscrit dans une mobilisation qui dure depuis un moment, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, t'étais déjà venue, on s'est rendu compte que c'était finalement il y a 2 ans en juin 2021. Et en juin 2021, tu nous avais déjà parlé d'une mobilisation forte pendant l'année, où il y avait eu 5 dates de mobilisation, etc.
Eh ben, d'ailleurs, la création de la grille de salaire national, elle faisait suite à cette forte mobilisation. Et finalement, la mobilisation des AED et des AESH, elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a eu des choses qui ont été gagnées, la grille de salaire, mais aussi la CDIsation des collègues AED, le versement de la prime REPRÉ+, qui est toute récente, qui a été un long combat mené en premier par Sud-Éduc, à la fois au niveau juridique, mais sans la mobilisation des collègues dans la rue, on va nulle part. Donc c'est bien la mobilisation des collègues et l'action syndicale ensemble qui font qu'on gagne des luttes. Et cette année, les collègues AED et AESH, ils ont aussi été extrêmement mobilisés contre la réforme des retraites. Moi, dans mon établissement, c'était vraiment flagrant. On était les premiers et premières à être en grève. Aussi parce que, en fait, on n'est pas dupes. On sait très bien que nous, nos retraites, avec nos temps partiels imposés, nos retraites, elles ne vont pas peser lourd, parce qu'un trimestre à temps partiel, ça ne compte pas pour un trimestre complet, ça compte pour un demi-trimestre. Donc, il va falloir en faire un sacré paquet. Donc voilà, les AED, les AESH se mobiliseront encore demain se mobiliseront contre les annonces du ministre dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Mais on se dit aussi que ces annonces, peut-être c'est un peu un bâton brandi pour nous faire peur, un truc qui verra jamais le jour. Ce qui nous semble aussi vraiment important, c'est de rappeler qu'on se mobilise avant tout pour un vrai statut, pour un vrai salaire, pour une vraie formation et une vraie retraite.
Super, et bien vous pouvez rejoindre le rassemblement au rectorat demain à midi avec un éventuel départ en manifestation s'il y a assez de monde. Alors venez nombreux et nombreuses pour une belle manifestation. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide en tant qu'AESH, vous pouvez toujours éventuellement contacter Sud-Éduc, comme on a entendu.
Et nous, il nous reste 2 minutes pour passer à notre traditionnel agenda.
Voilà, et du coup, demain, si vous n'allez pas au rassemblement des AESH et des AED, vous pouvez vous rendre rue Servian au tribunal judiciaire à 14h pour aller soutenir les 5 camarades jugés suite à la dégradation d'une voiture de la police municipale. L'agenda continue jeudi 15, où là le rendez-vous ce sera devant la métropole, en soutien cette fois-ci aux 200 mineurs isolés sans logement à l'appel du collectif Soutien Migrants 69. La métropole, c'est 20 rue du Lac et c'est à 11h30. Et puis, on en a parlé, ce week-end, il y a une date de lutte contre le TAV, le Lyon-Turin, ça se passe en Maurienne, et on trouve assez facilement plus d'informations dans les réseaux des soulèvements de la Terre.
Et si vous n'allez pas à la montagne, vous pouvez rester à Lyon et aller voir du théâtre anticarcéral à l'atelier des Canulars, c'est rue Montesquieu, c'est l'émission anticarcérale de Radio Canu, la petite cuillère, qui vous invite donc à venir voir Histoire de parloir. C'est à 18h et ce sera suivi d'un apéro et d'une table d'écriture pour des personnes détenues. Et on poursuit l'agenda pour la semaine suivante, puisqu'il n'y aura pas de Canu Info lundi prochain. Donc mardi 20 juin à 19h à la librairie des Mangeurs d'étoiles à Vez, Mathieu Lépine, qu'on avait interviewé ici, nous présentera son livre « L'hécatombe invisible » autour des morts, des accidents de travail et des morts au travail. Le 21 juin à 20h, le lieu est à venir, il y aura une déambulation festive et revendicative en mémoire de Steve, tué à Nantes pour la fête de la musique 2019. Le vendredi 23 juin, nous en avons déjà parlé, ce sera une soirée de soutien aux inculpés du 8 décembre, ça se passe à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff, et c'est à partir de 19h. Et le samedi 24 juin à 20h, place Guichard, c'est un événement. Alors c'est un rassemblement mixité choisi, pardon, uniquement pour des personnes LGBTQIA+ ou en questionnement. Et voilà pour l'agenda de ces 2 prochaines semaines. Et quant à nous, on vous dit probablement
à la prochaine fois.
Ouais, à la rentrée probablement. Et on vous laisse avec les bandes continues.